Chapitre 17. Benvenuto aux abois. Une heure après l'emprisonnement d'Ascanio et l'enlèvement de Colombe, Benvenuto Cellini arriva devant la porte de l'hôtel. Il s'arrêta une minute étonné de ne pas entendre le bruit des marteaux. Le noir château était muet et morne, comme si nulle âme ne l'habitait. Puis le maître frappa deux fois sans qu'on répondît. Enfin, au troisième coup, Scotson vint ouvrir. « Ah, vous voilà, maître !» s'écria-t-elle en apercevant Benvenuto Cellini. « Hélas, que n'êtes-vous pas revenu 2 heures plus tôt » « Qu'est-il donc arrivé ?» demanda Cellini. « Le prévôt, le comte d'Orbec et la duchesse d'Étampes sont venus. » Après, ils ont fait une perquisition. Eh bien, ils ont trouvé Colombe dans la tête du dieu Mars. Impossible. La duchesse d'Étampes a emmené Colombe chez elle et le prévôt a fait conduire Ascanio au Châtelet. Ah, nous avons été trahis, s'écria Benvenuto en frappant son front de la main et la terre de son pied. Puis, comme en toute chose, le premier mouvement de cet homme était la vengeance, il laissa son cheval regagner seul l'écurie et, s'élançant dans l'atelier, « Tous ici » cria-t-il, « tous !» Un instant après, tous les ouvriers étaient réunis. Alors chacun eut à subir un interrogatoire en règle, mais chacun ignorait complètement non seulement le lieu de la retraite de Colombe, mais encore le moyen par lequel les ennemis de la jeune fille avaient pu le découvrir. Voyant que de ce côté il n'avait rien à venger ni à apprendre, Benvenuto prit aussitôt son parti, avec la rapidité de résolution qui lui était habituelle, et après s'être assuré que son épée tenait bien à son côté et que son poignard glissait facilement dans le fourreau, il ordonna à tout le monde de se tenir à son poste, afin qu'il pût retrouver chacun en cas de besoin. Il sortit de l'atelier, descendit rapidement le perron et s'élança dans la rue. Et cette fois son visage, sa marche et tous ses mouvements portaient l'empreinte de la plus vive agitation. En effet, 1000 pensées, 1000 projets, 1000 douleurs se heurtaient et se mêlaient dans sa tête. Ascanio lui manquait au moment où il lui était le plus nécessaire, car pour la fonte de son Jupiter, ce n'était pas trop que tous ses apprentis, et à leur tête, le plus intelligent de tous. Colombe était enlevée, et au milieu de tous ses ennemis, Colombe pouvait perdre courage. Cette sereine et sublime confiance qui faisait à la pauvre enfant comme un rempart contre les mauvaises pensées et les desseins pervers allait peut-être s'altérer et l'abandonner parmi tant d'embûches et de menaces. Puis, au milieu de tout cela, un souvenir bouillait au fond de sa pensée. Il se souvenait qu'un jour il avait fait entrevoir à Ascanio la possibilité de quelque cruelle vengeance de la part de la duchesse d'Étampes. Ascanio avait répondu en souriant « Elle n'osera me perdre, car d'un mot je la perdrai ». Benvenuto avait alors voulu connaître ce secret, mais le jeune homme avait répondu « Aujourd'hui, maître, ce serait une trahison. Attendez le jour où ce ne sera qu'une défense ». Benvenuto avait compris cette délicatesse et avait attendu. Maintenant, il fallait qu'il revît Ascanio. C'était donc vers ce résultat qu'il devait tendre d'abord. Chez Benvenuto, la résolution suivit immédiatement le désir. Il s'était à peine dit qu'il lui fallait voir Ascanio qu'il frappait à la porte du Châtelet. Le guichet s'ouvrit et l'un des sergents du prévôt demanda à Cellini qui il était. Un autre homme se tenait derrière lui, dans l'ombre. « Je m'appelle Benvenuto Cellini, » répondit l'orfèvre. « Que désirez-vous ? » reprit le sergent. « Je désire voir un prisonnier enfermé dans cette prison. »« Comment se nomme-t-il ? » ? « Ascanio. » « Ascanio est au secret et ne peut voir personne. »« Et pourquoi Ascanio est-il au secret ?»« Parce qu'il est accusé d'un crime qui entraîne peine de mort. »« Alors, raison de plus pour que je le voie !» s'écria Benvenuto. « Vous avez une singulière logique, seigneur Cellini, » dit d'un ton goguenard la voix de l'homme caché dans l'ombre, « et qui n'est pas de mise au Châtelet. »« Qui rit quand je demande, qui raille quand je prie ?» s'écria Benvenuto. « Moi, dit la voix, moi, Robert d'Estourville, prévôt de Paris, chacun à son tour, seigneur Cellini. » À ces mots, le guichet se referma. Benvenuto poussa un rugissement et s'élança vers la porte massive, mais malgré l'effort réuni de ses pieds et de ses mains, la porte ne remua pas, même sous ses efforts. Benvenuto s'éloigna à toutes jambes pour ne pas céder à l'envie d'aller se briser la tête contre cette porte maudite. Il alla droit à l'hôtel d'Étampes. Tout n'était pas perdu encore si, ne pouvant voir Ascanio, il voyait du moins Colombe. Peut-être Ascanio, dans un épanchement d'amour, avait-il confié à sa fiancée le secret qu'il avait refusé d'apprendre à son maître. Tout alla bien d'abord. La porte de l'hôtel était ouverte. Il franchit la cour et entra dans l'antichambre, où se tenait un grand laquais, galonné sur toutes les coutures, espèce de colosse de 4 pieds de large et de 6 pieds de haut. « Qui êtes-vous » demanda-t-il à l'orfèvre en le toisant des pieds à la tête. En toute autre circonstance, Benvenuto eût répondu à ce regard insolent par quelqu'une des violences qui lui étaient habituelles, mais il s'agissait de voir Colombe, il s'agissait de sauver Ascanio, il se contint. « Je suis Benvenuto Cellini, l'orfèvre florentin, » répondit-il. « Que désirez-vous ? Voir Mademoiselle Colombe. »« Mademoiselle Colombe n'est pas visible. »« Et la Duchesse d'Étampes, au moins, est-elle visible ?»« Pas plus que Mademoiselle Colombe. » »« Pas même pour moi, qui suis son orfèvre. »« Pour vous, moins encore que pour tout autre. »« Alors je suis consigné, » s'écria Benvenuto. « Justement, » répondit le valet, « et vous avez mis le doigt dessus. » « Sais-tu que je suis un singulier homme, l'ami ?» dit à son tour Benvenuto Cellini, avec ce rire terrible qui précédait ordinairement ses explosions de colère, « et que c'est là où l'on ne veut me laisser entrer que j'entre. »« Et comment faites-vous, dites-moi cela, hein, vous me ferez plaisir. »« Quand il y a une porte et un drôle comme toi devant, par exemple. »« Eh bien, » dit le laquais. « Eh bien, » dit Benvenuto en joignant les faits à la parole, « je culbute le drôle et j'enfonce la porte. » En même temps, d'un coup de poing, Benvenuto envoyait le laquais rouler à 4 pas de là, et d'un coup de pied, il enfonçait la porte. « À l'aide !» cria le laquais, « à l'aide !» Mais ce cri de détresse du pauvre diable était inutile. En passant du vestibule dans l'antichambre, Benvenuto s'était trouvé en face de 6 valets, qui semblaient placés là pour l'attendre. Il devina que la Duchesse d'Étampes avait appris son retour et que toutes ses précautions avaient été prises en conséquence. Dans toute autre circonstance, et armé comme il l'était de son poignard et de son épée, Benvenuto serait tombé sur toute cette valetaille et en eût eu probablement bon marché. Mais cet acte de violence dans l'hôtel de la maîtresse du roi pouvait avoir des suites terribles. Pour la seconde fois, contre son habitude, la raison prit donc le dessus sur la colère et sûr au moins de pouvoir parvenir jusqu'au roi, près duquel, comme on le sait, il avait ses entrées à toute heure, il remit au fourreau son épée, déjà à moitié tirée, revint sur ses pas et, en s'arrêtant à chaque mouvement comme un lion qui bat en retraite, traversa lentement le vestibule, puis après le vestibule, la cour et s'achemina vers le Louvre. Un quart d'heure après, Benvenuto entrait au Louvre et s'arrêtait dans la salle des pages, demandant à parler à Sa Majesté sur l'heure. Il voulait tout raconter à François Ier, faire un appel à sa loyauté, et s'il n'obtenait point la permission de délivrer Ascanio, solliciter au moins celle de l'avoir. Il avait tout le long du chemin songé à ce qu'il devait dire au roi, et comme Benvenuto ne manquait pas de prétention à l'éloquence, il était d'avance fort content du petit discours qu'il avait préparé. En effet, tout ce mouvement, ces terribles nouvelles subitement apprises, ces outrages essuyés, ces obstacles qu'il n'avait pu vaincre, tout cela avait allumé le sang dans les veines de l'irascible artiste. Ses tempes bouillonnaient, son cœur battait avec force, ses mains tremblaient. Il ne savait lui-même quelle excitation ardente doublait l'énergie de son corps et de son âme. Une journée de vie se concentre parfois en une minute. Ce fut dans ces dispositions que Benvenuto, s'adressant à un page, demanda la faveur d'entrer chez le roi. « Le roi n'est pas visible, » répondit le jeune homme. « Ne me reconnaissez-vous pas ?» répondit Benvenuto, étonné. « Si fait, parfaitement, au contraire. Je m'appelle Benvenuto Cellini, et Sa Majesté est toujours visible pour moi. » C'est justement parce que vous vous appelez Benvenuto Cellini, répondit le page, que vous ne pouvez entrer. Benvenuto demeura stupéfait. Ah, c'est vous, continua le jeune homme en s'adressant à un courtisan qui était arrivé en même temps que l'orfèvre. Ah, c'est vous, monsieur de Termes, entrez, comte de la Faille, entrez, monsieur Després. Et moi donc, s'écria Benvenuto en pâlissant de colère. Le roi, en rentrant il y a 10 minutes, a dit, si cet insolent Florentin se présente, qu'il sache que je ne veux pas le voir, et qu'on lui conseille d'être docile s'il ne veut pas avoir à faire la comparaison entre le Châtelet et le Fort-Saint-Ange. Ah, à mon aide, ô patience, à mon aide, murmura Benvenuto Cellini d'une voix sourde, car, vrai Dieu, je ne suis pas habitué à ce que les rois me fassent attendre. Mais malgré cette belle résolution d'être patient, Benvenuto fut obligé de s'appuyer contre une colonne. Son cœur se gonflait et ses jambes se dérobaient sous lui. Ce dernier affront ne le froissait pas seulement dans son orgueil, il le blessait dans son amitié. Son âme était toute pleine d'amertume et de désespoir, et ses lèvres serrées, son regard morne, ses mains crispées témoignaient de la violence de sa douleur. Cependant, au bout d'une minute, il revint à lui, chassa par un mouvement de tête ses cheveux qui retombaient sur son front, et sortit d'un pas ferme et décidé. Tous ceux qui étaient là le regardaient s'éloigner avec une sorte de respect. Si Benvenuto paraissait calme, c'était grâce à la puissance inouïe qu'il possédait sur lui-même, car en réalité il était plus égaré et plus troublé qu'un cerf aux abois. Il alla quelque temps dans la rue, sans savoir où il allait, sans voir autre chose qu'un nuage, sans rien entendre que le bourdonnement de son sang dans ses oreilles, se demandant vaguement à lui-même, comme on le fait dans l'ivresse, s'il dormait ou s'il s'éveillait. C'était la troisième fois qu'on le chassait depuis 1 heure. À lui, Benvenuto, ce favori des princes, des papes et des rois, c'était la troisième fois qu'on lui jetait la porte au visage. À lui, Benvenuto, devant lequel les portes s'ouvraient à 2 battants quand on entendait venir le bruit de ses pas. Et cependant, malgré ce triple affront, il n'avait pas le droit de laisser faire sa colère. Il fallait qu'il cachât sa rougeur et qu'il dissimulât sa honte jusqu'à ce qu'il eût sauvé Colombe et Ascanio. La foule qui passait près de lui, insouciante, paisible ou affairée, lui paraissait lire sur son front la triple injure qu'il venait de supporter. Ce fut peut-être le seul moment de sa vie où cette grande âme humiliée douta d'elle-même. Cependant, au bout d'un quart d'heure, à peu près, de cette fuite aveugle, errante, désordonnée, il descendit en lui-même et releva la tête. Son abattement le quitta et sa fièvre le reprit. « Allons !» s'écria-t-il tout haut, tant il était dominé par sa pensée, tant l'âme dévorait le corps. « Allons, ils ont bon fouler l'homme, ils ne terrasseront pas l'artiste. Allons, sculpteurs, qu'ils se repentent de leur action en admirant ton œuvre. Allons, Jupiter, prouve que tu es encore non seulement le roi des dieux, mais le maître des hommes. » Et en achevant ces paroles, Benvenuto, entraîné pour ainsi dire par une impulsion plus forte que lui, prit sa course vers les Tournelles, cette ancienne résidence royale qu'habitait encore le vieux connétable Anne de Montmorency. Il fallut que le bouillant Benvenuto attendît son tour pendant 1 heure avant de pénétrer jusqu'au ministre soldat de François Ier, qu'assiégeait une foule de courtisans et de solliciteurs. Enfin, on l'introduisit auprès du connétable. Anne de Montmorency était un homme de haute taille, à peine courbé par l'âge, froid, raide et sec, au regard vif, à la parole brève. Il grondait éternellement et jamais on ne l'avait vu de bonne humeur. Quand Benvenuto entra, il se promenait, selon sa coutume, de long en large dans sa chambre. Il répondit par un signe de tête au salut de Cellini, puis s'arrêtant tout à coup et fixant sur lui son regard perçant, « Qui êtes-vous ? » lui demanda-t-il. « Benvenuto Cellini. « Votre profession ?»« Orfèvre du roi, » répondit l'artiste, étonné que sa première réponse ne lui eût pas épargné la seconde question. « Ah oui, c'est vrai, grommela le connétable, je vous reconnais. Eh bien, que voulez-vous? Que demandez-vous, mon cher ?»« Vous souvenez-vous, monseigneur, qu'une fois, Sa Majesté m'a dit devant vous que le jour où je lui apporterai la statue de Jupiter fondue en bronze, elle m'accorderait la grâce que je lui demanderai, et qu'elle vous chargerait, monseigneur, vous et le chancelier Poyet, de lui rappeler cette royale promesse au cas où elle l'aurait oubliée. Je m'en souviens, après. » « Eh bien, monseigneur, le moment approche où je vous adjurerai d'avoir de la mémoire pour le roi. En aurez-vous ?»« C'est cela que vous venez me demander, monsieur ?» s'écria le connétable. « C'est pour me prier de faire ce que je dois que vous me dérangez. »« Monseigneur, vous êtes un impertinent, monsieur l'orfèvre. Apprenez que le connétable Anne de Montmorency n'a pas besoin qu'on l'avertisse d'être honnête homme. Le roi m'a dit d'avoir de la mémoire pour lui, et c'est une précaution qu'il devrait prendre plus souvent, soit dit sans lui faire tort. Eh bien, j'en aurais dû cette mémoire lui être importune. Adieu, maître Cellini, et passons à d'autres. » Sur ce, le connétable tourna le dos à Benvenuto et fit signe qu'on pouvait faire entrer un autre solliciteur. De son côté, Benvenuto salua le connétable dont la brusque franchise ne lui déplaisait pas, et toujours animé par la même fièvre, il se présenta chez le chancelier Poyet qui demeurait non loin de là à la porte Saint-Antoine. Le chancelier Poyet formait avec Anne de Montmorency, toujours maussade, toujours cuirassée des pieds à la tête, l'opposition morale et physique la plus complète. Il était poli, fin, côteleux, enfoncé dans des fourrures, perdu en quelque sorte dans l'hermine. On ne voyait de lui qu'un crâne chauve et grisonnant, des yeux spirituels et inquiets, des lèvres minces et une main blanche. Il avait autant d'honnêteté peut-être que le connétable, mais moins de droiture. Là encore, il attendit une demi-heure, mais Benvenuto n'était plus reconnaissable, il s'habituait à attendre. « Monseigneur, dit-il, quand enfin on l'introduisit, je viens vous rappeler une parole que le roi m'a donnée en votre présence et dont il vous a fait non seulement le témoin, mais encore le garant. » « Je sais ce que vous voulez dire, messire Benvenuto, interrompit Poyet, je suis prêt, si vous le désirez, à remettre à sa majesté sa promesse devant les yeux. Mais je dois vous prévenir que, judiciairement parlant, vous n'avez aucun droit, attendu qu'un engagement pris en l'heure et laissé à votre discrétion n'est nullement valable devant les tribunaux et n'équivaudra jamais à un titre. Il en résulte que si le roi satisfait à votre demande, ce sera par pure bonne grâce et par loyauté de gentilhomme. « C'est ainsi que je l'entends, monseigneur, dit Benvenuto, et je vous prie seulement de remplir en temps et lieu la commission dont le roi vous a chargé, laissant le reste à la bienveillance de sa majesté. » « À la bonne heure, dit Poyet, et dans ses limites, mon cher monsieur, croyez bien que je suis tout à vous. » Benvenuto quitta donc le chancelier, l'esprit plus tranquille, mais le sang toujours allumé, les mains toujours fiévreuses. Ce fut en proie à cette exaltation étrange qu'il rentra à l'hôtel de Nesle. Tous les apprentis l'attendaient comme il avait ordonné. « À la fonte de Jupiter, mes enfants, à la fonte » cria-t-il du seuil de la porte, et il s'élança vers l'atelier. Ah, « Bonjour, maître, » dit Jacob Brie, qui était entré en chantant joyeusement derrière Benvenuto Cellini. « Vous ne m'aviez donc ni vu ni entendu. Il y a 5 minutes que je vous poursuis sur le quai en vous appelant. Vous marchiez si vite que j'en suis tout essoufflé. Mais qu'avez-vous tous donc ici? Vous êtes tristes comme des juges. » Benvenuto, tout pressé qu'il était de se mettre au travail, raconta à l'écolier le triste malheur, s'exclamant contre le traître inconnu qui avait livré Ascanio et Colombe à leurs ennemis, lui parlant de ses démarches et ajoutant « Je donnerais 10 ans de ma vie à qui pourrait pénétrer jusqu'au prisonnier, lui parler et m'apporter le secret au moyen duquel je ferais plier cette altière duchesse. » Au premier mot de Benvenuto Cellini, Jacques Aubry était devenu affreusement pâle, car il soupçonnait qu'il était la cause de tout cela. Puis, à mesure que Benvenuto parlait, ce soupçon s'était chargé en certitude. Alors, sans doute, quelque projet de son côté lui vint à l'esprit, car il disparut en silence, tandis que Cellini, tout en fièvre, courait à la fonderie, suivi de ses ouvriers, en criant comme un insensé « À la fonte, mes enfants, à la fonte !» Le pauvre Jacques Aubry était sorti désespéré du grand Nesle. Il n'y avait point à en douter, c'était lui qui, involontairement, avait trahi le secret d'Ascanio. Mais quel était celui qui l'avait trahi lui-même? Ce n'était certes pas ce brave seigneur dont il ignorait le nom, un gentilhomme, fi donc. Il fallait que ce fût ce drôle d'Henriet, à moins cependant que ce ne fût Robin, ou bien Charlot, ou bien Guillaume. À vrai dire, le pauvre Aubry se perdait dans ses conjectures. Le fait est qu'il avait confié l'événement à une douzaine d'amis intimes, parmi lesquels il n'était pas facile de retrouver le coupable. Mais qu'importe, le premier, le véritable, le seul traître, c'était lui, Jacques. Ses remords devinrent si poignants et le jetèrent dans une exaspération telle que, pour la première fois de sa vie peut-être, Jacques Aubry se mit à réfléchir. Après tout, quand son crâne serait chauve, sa poitrine violette et sa conscience en pièces, ce n'était pas là ce qui délivrerait Ascanio. À tout prix, il fallait réparer le mal au lieu de perdre le temps à se désespérer. L'honnête Jacques avait retenu ces paroles de Benvenuto. « Je donnerai 10 ans de ma vie à qui pourrait pénétrer jusqu'à Ascanio, lui parler et me rapporter le secret au moyen duquel je ferai plier cette altière duchesse. » Et, comme nous l'avons dit, il s'était, contre son habitude, mis à réfléchir. Le résultat de ses réflexions fut qu'il fallait pénétrer dans le Châtelet. Une fois là, il finirait bien par arriver jusqu'à Ascanio. Mais c'était inutilement que Benvenuto avait tenté d'y entrer comme visiteur, et certes, Jacques Aubry n'eut pas même l'orgueilleuse idée de tenter une chose dans laquelle le maître avait échoué. Mais s'il était impossible d'y pénétrer comme visiteur, il devait être on ne peut plus facile, du moins le basochien le croyait, d'y entrer comme prisonnier. Enchanté de la richesse de son imagination et orgueilleux de l'étendue de son dévouement, il s'achemina vers le Châtelet. Jacques Aubry, arrivé au terme de son chemin, frappa un coup véhément à la porte du Châtelet. Le guichet s'ouvrit, et une voix rude lui demanda ce qu'il voulait. C'était celle du geôlier. « Je veux un cachot dans votre prison, » répondit Aubry d'une voix sombre. « Un cachot ?» fit le geôlier, étonné. « Oui, un cachot, le plus noir et le plus profond. Ce sera encore mieux que je ne le mérite. »« Mais pourquoi cela ?»« Parce que je suis un grand criminel. » « Quel crime avez-vous commis ?»« Ah, au fait, quel crime ai-je commis ?» se demanda Jacques, qui n'avait pas pensé à se préparer. « Un crime convenable. »« Oui, quel crime ?» reprit le geôlier. « Devinez, » dit Jacques. Puis il ajouta par lui, « Ce gaillard-là doit mieux se connaître en crime que moi. Il va me faire une liste et je choisirai. »« Avez-vous assassiné ?» demanda le geôlier. « Ça, dit donc !» s'écria l'écolier, dont la conscience se révoltait à l'idée de passer pour un meurtrier. « Pour qui me prenez-vous, l'ami »« Avez-vous volé ?» continua le geôlier. « Volé ? Ah, par exemple !»« Mais qu'avez-vous donc fait alors ?» s'écria le geôlier, impatienté. « Ce n'est pas tout de se donner comme criminel, il faut encore dire quel crime on a commis !» « Mais quand je vous dis que je suis un scélérat, que je suis un misérable, quand je vous dis que j'ai mérité la roue, que j'ai mérité le gibet !»« le crime !» demanda impassiblement le geôlier. « Eh bien, le crime, j'ai trahi l'amitié !»« Ce n'est pas un crime, cela !» dit le geôlier. « Bonsoir !» Et il referma la porte. « Ce n'est pas un crime, cela !»« Ce n'est pas un crime, et qu'est-ce donc ?» Et Jacques Aubry empoigna le marteau à pleine main et se remit à frapper de plus belle. « Mais qu'y a-t-il donc encore ?» interrompit dans l'intérieur du Châtelet la voix d'un tiers qui survint. « C'est un fou qui veut entrer au Châtelet, » dit le guichetier. « Alors si c'est un fou, sa place n'est point au Châtelet, mais à l'hôpital. »« À l'hôpital ?» s'écria Jacques Aubry en s'enfuyant à toutes jambes. « L'hôpital, peste, ce n'est point là mon affaire, mais j'y pense. » Pourquoi n'aurais-je pas séduit quelque jeune fille? Ce n'est pas déshonorant, oui, mais quelle jeune fille? Gervaise, et malgré sa préoccupation, l'écolier se mit à rire aux éclats. Eh bien, après tout, dit-il, cela n'est pas, mais cela aurait pu être. Allons, allons, voilà mon crime tout avoué, j'ai séduit Gervaise. Et Jacques Aubry prit sa course vers la maison de la jeune ouvrière, monta à tout courant les 60 marches qui conduisaient à son logement, et sauta de plein bond au milieu de sa chambre où, dans son négligé coquet, la charmante grisette, un fer à la main, repassait ses guimpes. « Ah !» fit Gervaise en poussant un joli petit cri. « Ah, monsieur, que vous m'avez fait peur !» « Gervaise, ma chère Gervaise !» s'écria Jacques Aubry en s'avançant vers sa maîtresse les bras ouverts. « Il faut me sauver la vie, mon enfant !»« un instant !» dit Gervaise en se servant de son fer comme d'un bouclier. « Que voulez-vous, monsieur le coureur? Il y a 3 jours qu'on ne vous a vu !»« J'ai tort, Gervaise, je suis un malheureux. Mais la preuve que je t'aime, c'est que dans ma détresse, c'est vers toi que j'accours. Je te le répète, Gervaise, il faut me sauver la vie !» « Oh, mon Dieu, Jacques !» dit la jeune fille avec un mouvement plein de tendre compassion. « Es-tu fou ?»« Voilà, ils disent que je suis fou et ils veulent m'envoyer à l'hôpital, tandis que c'est au Châtelet que je veux aller, moi. »« Tu veux aller au Châtelet? Et pourquoi faire, Aubry? C'est une affreuse prison que le Châtelet. On dit qu'une fois qu'on y est entré, on ne sait plus quand on en sort. Il faut pourtant que j'y entre. Il le faut pourtant, s'écria l'écolier. Il n'y a que ce moyen de le sauver. De sauver qui? De sauver Ascanio. Qui, Ascanio? Ce beau jeune homme, l'élève de votre ami Benvenuto? Lui-même, Gervaise, il est au Châtelet, par ma faute. Grand Dieu! De sorte que, dit Jacques, il faut que je le rejoigne, il faut que je le sauve. Tu pourrais me rendre un grand service. Et lequel? Tu pourrais dire que je t'ai séduite. Mais sans doute, mauvais sujet, vous m'avez séduite. Moi, s'écria Jacques étonné, moi, Gervaise, je t'ai séduite. Hélas, oui, c'est le mot, séduite, monsieur, indignement séduite par vos belles paroles, par vos fausses promesses. Par mes belles paroles, par mes fausses promesses. Oui, ne me disiez-vous pas que j'étais la plus jolie fille du quartier Saint-Germain-des-Prés? Ah, cela, je te le dis encore. Ne disiez-vous pas que si je ne vous aimais pas, vous alliez mourir d'amour? Tu crois que je disais cela? C'est drôle, je ne me souviens pas. Tandis que si, au contraire, je vous aimais, vous m'épouseriez. Oh, Gervais, je n'ai pas dit cela, jamais. Vous l'avez dit, monsieur. Jamais, 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 Gervaise. Mon père m'a fait faire un serment comme Hamilcar à Hannibal. Lequel? Il m'a fait jurer de mourir garçon, comme lui. Oh! S'écria Gervaise en appelant avec cette merveilleuse facilité que les femmes ont à pleurer les larmes au secours de ces paroles. Ah! Voilà comment ils sont tous. Les promesses ne leur coûtent rien et quand la pauvre fille est séduite, ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont promis. Aussi, je le jure à mon tour, ce sera la dernière fois que je m'y laisserai prendre. Et tu feras bien, Gervaise, dit l'écolier. Lorsqu'on pense, s'écria la grisette, qu'il y a des lois pour les larronneurs, les coupeurs de bourse et les tire-laine, et qu'il n'y en a pas contre les mauvais sujets qui perdent les jeunes filles. Il y en a, Gervaise, dit Jacques Aubry. Il y en a, reprit Gervaise. Sans doute, puisque tu vois qu'on a envoyé ce pauvre Ascanio au Châtelet pour avoir séduit Colombe. Elle en a bien fait, répondit Gervaise, à qui la perte de son honneur ne s'était jamais présentée d'une façon aussi sensible que depuis qu'elle était aussi bien convaincue que Jacques Aubry était décidé à ne pas lui rendre son nom en compensation. Oui, on l'a bien fait, et je voudrais que vous fussiez avec lui au Châtelet. Eh mon Dieu, c'est tout ce que je demande aussi, s'écria l'écolier, et comme je te l'ai dit, ma petite Gervaise, je compte sur toi pour cela. Vous comptez sur moi? Oui, riez, ingrat. Je ne ris pas, Gervaise. Je te dis que si tu avais le courage, quel courage, de m'accuser devant le juge, de quoi? De t'avoir séduite, mais tu n'oseras jamais. Comment je n'oserais pas, s'écria Gervaise, outrée, je n'oserais pas dire la vérité. Songe donc qu'il faudrait faire serment, Gervaise. Je le ferai. Tu feras serment que je t'ai séduite, moi? Oh oui, 100 fois oui. Alors, tout va bien, dit l'écolier joyeux. Moi, écoute donc, j'avais peur, un serment est une chose grave. Oui, serment, à l'instant même, je vous enverrai au Châtelet, monsieur. Bon, et vous retrouverez là votre Ascanio. Ah, merveille. Et vous aurez tout le temps de faire pénitence ensemble. C'est tout ce que je demande. Où est le lieutenant criminel? Au palais de justice. J'y cours. Courons-y ensemble, Gervaise. Oui, ensemble. De cette façon, la punition ne se fera pas attendre. Prenez mon bras, Gervaise, dit l'écolier. Venez, monsieur, dit la grisette. Et tous deux s'acheminèrent vers le palais de justice, du même pas qu'ils avaient l'habitude de s'en aller le dimanche au Pré aux Clercs ou à la butte Montmartre. Seulement, à mesure qu'ils avançaient vers le temple de Thémis, comme Jacques Aubry appelait poétiquement le monument en question, la marche de Gervaise se ralentissait insensiblement. Arrivée au bas de l'escalier, elle eut quelque peine à en franchir les marches. Enfin, à la porte du lieutenant criminel, les jambes lui manquèrent tout à fait, et l'écolier la sentit peser de tout son poids à son bras. Eh bien, Gervaise, lui dit-il, est-ce que le courage te manque? Non, dit Gervaise, mais c'est que c'est bien intimidant, un lieutenant criminel. C'est un homme comme un autre, pardieu. Jacques, mon ami, s'écria Gervaise, ramène-moi à la maison. Gervaise, Gervaise, dit l'écolier, ce n'était pas cela que tu avais promis. Jacques, je ne te ferai plus de reproches, je ne te parlerai plus de rien. Je t'ai aimé parce que tu me plaisais, voilà tout. Allons, dit l'écolier, voilà ce que je craignais, mais il est trop tard. Comment trop tard? Tu es venu ici pour m'accuser, et tu m'accuseras. Jamais, Jacques, jamais, tu ne m'as pas séduite, Jacques, c'est moi qui étais coquette. Allons bien, s'écria l'écolier. D'ailleurs, ajouta Gervaise en baissant les yeux, on n'est séduite qu'une fois. Comment qu'une fois? Oui, la première fois qu'on aime. Eh bien, toi qui m'avais fait croire que tu n'avais jamais aimé. Jacques, ramène-moi à la maison. Ah, ça non, dit Jacques, exaspéré, et du refus de Gervaise et du motif sur lequel elle l'appuyait. Non, 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 et il frappa à la porte du juge. Que fais-tu? S'écria Gervaise. Tu le vois bien, je frappe. « Entrez !» cria une voix nasillarde. « Je ne veux pas entrer !» dit Gervaise, faisant tous ses efforts pour dégager son bras de celui de l'écolier. « Je n'entrerai pas !»« Entrez !» répéta une seconde fois la même voix, mais avec un accent plus prononcé. « Jacques, je crie, j'appelle !» dit Gervaise. « Mais entrez donc !» dit une troisième fois la voix plus rapprochée, et en même temps la porte s'ouvrit. « Eh bien, que voulez-vous ? » dit un grand homme maigre, vêtu de noir, dont la seule vue fit trembler Gervaise de la tête aux pieds. « C'est, dit Jacques Aubry, c'est mademoiselle qui vient porter plainte contre un mauvais sujet qui l'a séduite. » Et il poussa Gervaise dans une chambre noire, sale, hideuse, qui servait de vestibule au cabinet du lieutenant criminel. En même temps, comme par un ressort, la porte se referma. Gervaise jeta un faible cri, moitié d'effroi, moitié de surprise, et elle alla s'asseoir, ou plutôt alla tomber, sur un escabeau adossé à la muraille. Quant à Jacques Aubry, de peur que la jeune fille ne le rappelât ou ne courût après lui, il s'enfuit par des corridors connus des écoliers, des basochiens et des plaideurs seulement, jusque dans la cour de la Sainte-Chapelle, et puis de là gagna plus tranquillement le pont Saint-Michel, par lequel il fallait absolument que Gervaise repassât. Une demi-heure après, il la vit reparaître. « Eh bien, lui dit-il en courant au-devant d'elle, comment cela s'est-il passé ?»« Hélas, dit Gervaise, vous m'avez fait faire un bien gros mensonge, mais j'espère que Dieu me le pardonnera en faveur de l'intention. »« Je le prends sur moi, dit Aubry. Mais voyons, comment cela s'est-il passé ?»« Est-ce que j'en sais quelque chose, dit Gervaise. J'étais si honteuse qu'à peine, si je me rappelle ce dont il a été question. » Tout ce que je sais, c'est que monsieur le lieutenant criminel m'a interrogé, et qu'à ses questions, j'ai répondu tantôt oui, tantôt non. Seulement, je ne suis pas bien sûr d'avoir répondu comme il faut. La malheureuse, s'écria Jacques Aubry, vous verrez qu'elle se sera accusée de m'avoir séduit. Oh, non, dit Gervaise, je ne crois point que cela ait été jusque-là. Et ont-ils mon adresse au moins pour qu'ils puissent m'assigner? Demanda l'écolier. « Oui, murmura Gervaise, je la leur ai donnée. »« Allons, c'est bien, dit Aubry, et maintenant espérons que Dieu fera le reste. » Et après avoir reconduit chez elle et consolé de son mieux Gervaise de la fausse déposition qu'elle avait été obligée de faire, Jacques Aubry se retira chez lui, plein de foi dans la Providence. En effet, soit que la Providence s'en fût mêlée, soit que le hasard eût tout fait, Jacques Aubry trouva le lendemain matin une assignation qui le citait à comparaître le jour même devant le lieutenant criminel. Cette assignation comblait les plus chers désirs de Jacques Aubry, et cependant, tant la justice est chose respectable, il sentit, en lisant cette assignation, un frisson courir dans ses veines. Mais, hâtons-nous de le dire, la certitude de revoir Ascanio, le désir de sauver l'ami qu'il avait perdu, chassèrent bien vite loin de notre écolier ce petit mouvement de faiblesse. La citation portait l'heure de midi, il n'était que 9 heures du matin. Il courut chez Gervaise, qu'il trouva non moins agitée que la veille. « Eh bien » demanda-t-elle. « Eh bien, dit Jacques Aubry, triomphant, et montrant le papier couvert d'hiéroglyphes qu'il tenait à la main, voilà. »
Pour quelle heure?
Pour midi, c'est tout ce que j'ai pu en lire.
Alors vous ne savez pas de quoi vous êtes accusée?
De t'avoir séduite, ma petite Gervaise, je présume.
Vous n'oublierez pas que c'est vous qui l'avez exigée.
Comment donc? Je suis prêt à te signer d'avance que tu t'y refusais complètement.
Alors vous ne m'en voudrez pas de vous avoir obéi. Au contraire, je t'en serai, on ne peut plus reconnaissant. Quelque chose qu'il arrive, quelque chose qu'il arrive. D'ailleurs, si j'ai dit tout cela, c'est que j'y étais forcé. Sans doute. Et si dans mon trouble j'avais dit autre chose que ce que je voulais dire, vous me pardonnerez. Non seulement je te pardonnerai, ma chère, ma divine Gervaise, mais je te le pardonne d'avance. Ah, dit Gervaise en soupirant, ah, mauvais sujet, c'est avec ces paroles-là que vous m'avez perdu. On voit bien que décidément Gervaise avait été séduite. Ce ne fut qu'à midi moins un quart que Jacques Aubry se souvint qu'il était assigné pour midi. Il prit congé de Gervaise et comme la distance était longue, il s'en alla tout courant. Midi sonnait comme il frappait à la porte du lieutenant criminel. « Entrez !» cria la même voix nasillarde. Cette invitation n'eut pas besoin d'être répétée, et Jacques Aubry, le sourire aux lèvres, le nez au vent et le bonnet sur l'oreille, entra chez le grand homme noir. « Comment vous nommez-vous » demanda celui-ci. « Jacques Aubry, » répondit l'écolier. « C'est bien, attendez-vous là et attendez votre tour. » Jacques s'assit, comme l'homme noir le lui avait dit de faire, et attendit. 5 à 6 personnes, de visage, d'âge et de sexe différents, attendaient comme lui, et comme elles étaient arrivées avant lui, elles passèrent naturellement avant lui. Enfin, on appela Jacques Aubry, écolier. Jacques Aubry se leva aussitôt et s'élança dans le cabinet du lieutenant criminel, d'un air aussi joyeux que s'il se fût agi pour lui de la partie de plaisir la plus agréable. Il y avait 2 hommes dans le cabinet du lieutenant criminel, l'un plus grand, plus noir, plus sec et plus maigre encore que celui de l'antichambre. Ce que Jacques Aubry eut 5 minutes avant regardé comme impossible, c'était le greffier. L'autre, gros, gras, petit, rond, à l'œil joyeux, à la bouche souriante, à la physionomie joviale, c'était le lieutenant criminel. Le sourire d'Aubry et le sien se croisèrent, et l'écolier fut tout prêt à donner une poignée de main au juge, tant il se sentait de sympathie pour cet honorable magistrat. « Hé, hé, hé !» fit le lieutenant criminel en regardant le basochien. « Ma foi, oui, messire, » répondit l'écolier. « Vous m'avez en effet l'air d'un gaillard, » reprit le magistrat. « Voyons, monsieur le drôle, prenez une chaise et asseyez-vous. » Jacques Aubry prit une chaise, s'assit, croisa une jambe sur l'autre et se dandina joyeusement. « Ah !» fit le lieutenant criminel en se frottant les mains. « Voyons, monsieur le greffier, voyons la déposition de la plaignante. »« Voilà, » dit le greffier. « Voyons, qui est-ce qui se plaint ?» demanda le lieutenant criminel. « Gervaise Perrette Popinot, » dit le greffier. « C'est cela, » fit l'écolier en hochant la tête de haut en bas, « c'est cela même. » « Mineur, » dit le greffier, « âgé de 19 ans. »« Oh, mineur !» s'exclama Aubry, ainsi qu'il a peur de sa déclaration. Ah, « Pauvre Gervaise !» murmura Aubry, elle avait bien raison de dire qu'elle était si fort troublée qu'elle ne savait pas ce qu'elle répondait. Elle m'a avoué à moi 22 ans, enfin, 20 pour 19 ans. « Ainsi, dit le lieutenant criminel, ainsi, mon gaillard, vous êtes accusé d'avoir séduit une fille mineure. Hé, hé, hé !»« fit Aubry, partageant l'hilarité du juge. « Avec circonstances aggravantes, » continua le greffier, jetant son timbre glapissant au milieu des 2 voix enjouées du magistrat et de l'écolier. « Avec circonstances aggravantes, » répéta le juge. « Diable, » dit Jacques Aubry, « je serais bien aise de connaître les circonstances aggravantes. » Comme la plaignante restait insensible depuis 6 mois à toutes les prières, à toutes les séductions de l'accusé, un soir qu'elle avait eu l'imprudence d'accepter une collation que lui avait offerte l'accusé, le dit Jacques Aubry mêla dans son eau, « Dans son eau, » interrompit l'écolier. « La plaignante a déclaré ne jamais boire de vin, » continua le greffier. « Le dit Jacques Aubry mêla dans son eau une boisson enivrante. »« Dis donc, monsieur le greffier, » s'écria le basochien, « que diable lisez-vous donc là ?»« La déposition de la plaignante. »« Impossible, » reprit Jacques. « C'est écrit ?» demanda le lieutenant criminel. « C'est écrit, » reprit le greffier. « Continuez. » Au fait, dit à part lui Jacobri, plus je serai coupable, plus je serai sûr d'aller rejoindre Ascanio au Châtelet. Va pour l'enivrement. Continuez, monsieur le greffier. Vous avouez donc, demanda le juge.
J'avoue, dit l'écolier.
Un panda, fit le lieutenant criminel en éclatant de rire et en se frottant les mains.
De sorte, continua le greffier, que la pauvre Gervaise, n'ayant plus sa raison, finit par avouer à son séducteur qu'elle l'aimait.
Ah, fit Jacques. Heureux coquin, murmura le lieutenant criminel, dont les petits yeux étincelaient.
Mais, s'écria Jacobri, mais c'est qu'il n'y a pas un mot de vrai dans tout cela.
Vous niez?
Parfaitement.
Écrivez, dit le lieutenant criminel, que l'accusé affirme n'être coupable d'aucun des griefs qui lui sont imputés.
Un instant, s'écria l'écolier, qui songeait en lui-même que s'il niait sa culpabilité, on ne l'enverrait pas en prison.
Alors, vous ne niez pas complètement, reprit le juge.
J'avoue qu'il y a quelque chose de vrai, non pas dans la forme, mais dans le fond.
Puisque vous avez avoué le breuvage enivrant, dit le juge, vous pouvez bien avouer les suites.
Au fait, reprit Jacques, puisque j'ai avoué le breuvage enivrant, j'avoue, monsieur le greffier, j'avoue.
Mais en vérité, continua-t-il tout bas, Gervaise avait bien raison de dire.
Mais ce n'est pas tout, interrompit le greffier.
Comment ce n'est pas tout?
Le crime dont l'accusé s'est rendu coupable à l'égard de la fille Gervaise eut des suites terribles. La malheureuse Gervaise s'aperçut qu'elle était mère.
Oh, pour cela, s'écria Jacques, c'est trop fort.
Vous niez la paternité? Demanda le juge.
Non seulement je nie la paternité, mais je nie la grossesse.
Écrivez, dit le juge, que l'accusé, niant non seulement la paternité, mais encore la grossesse, il sera fait une enquête sur ce point.
Un instant, s'écria Aubry, comprenant que si Gervaise était convaincu de mensonge sur un seul point, tout l'échafaudage s'écroulait.
Un instant, Gervaise a-t-elle bien dit ce que monsieur le greffier vient de nous lire?
Elle l'a dit mot pour mot, répondit le greffier.
Alors, si elle l'a dit, continua Aubry, si elle l'a dit, eh bien...
Eh bien, demanda le lieutenant criminel,
eh bien, cela doit être.
Écrivez que l'accusé se reconnaît coupable sur tous les chefs d'accusation.
Le greffier écrivit.
Pardieu, se dit en lui-même l'écolier, si Ascanio mérite 8 jours au Châtelet pour avoir purement et simplement fait la cour à Colombe, moi qui ai trompé Gervaise, moi qui l'ai enivrée, moi qui l'ai séduite, je puis compter sur 3 mois d'incarcération, au moins. Mais, ma foi, je voulais être sûr de mon fait. Au reste, j'en ferai compliment à Gervaise. Peste, elle ne s'est pas abîmée, Jeanne d'Arc était bien peu de choses auprès d'elle.
« Ainsi, interrompit le juge, vous avouez tous les crimes dont vous êtes accusé. »
« Je les avoue, messire, répondit Jacques sans hésiter, je les avoue, ceux-là et d'autres encore si vous voulez. Je suis un grand coupable, monsieur le lieutenant criminel, ne me ménagez donc point. »
« Impudent coquin, murmura le juge, du ton dont un oncle de comédie parle à son neveu.
Impudent coquin, va !» Alors il abaissa sa grosse tête ronde, bouffie et vermeille sur sa poitrine et se mit à réfléchir profondément. Et puis, après quelques minutes de méditation, « Attendu, dit-il en relevant la tête et en levant l'index de la main droite, attendu, écrivez, monsieur le greffier, attendu que le nommé Jacques Aubry, écolier clerc de la Basoche, a déclaré avoir séduit la fille Gervaise Perrette Popinot, par de belles promesses et par de faux semblants d'amour, condamnons le dit Jacques Aubry à 20 sous parisis d'amende à prendre soin de l'enfant, si c'est un mâle, et aux dépens. »
« Et la prison ?» demanda Aubry.
« Comment, la prison ?» demanda le juge.
« Sans doute, la prison. Est-ce que vous ne me condamnez pas à la prison par hasard ?»«
Non. »«
Vous n'allez pas me faire conduire au Châtelet comme Ascanio ?»«
Qu'est-ce que c'est que cet Ascanio ?»«
Ascanio est un élève de maître Benvenuto Cellini. »«
Qu'a-t-il fait, cet élève ?»«
Il a séduit une jeune fille. »«
Quelle jeune fille ?»
Mademoiselle Colombe d'Estourville, fille du prévôt de Paris.
Eh bien?
Eh bien, je dis que c'est une injustice, puisque nous avons tous deux commis le même crime, de faire une différence dans le châtiment. Comment? Vous l'envoyez en prison, lui, et moi, vous me condamnez à 20 sous parisis d'amende? Il n'y a donc plus de justice dans ce monde? Au contraire, répondit le juge, c'est parce qu'il y a une justice, et une justice bien entendue, que cela a été décidé ainsi. Comment? Sans doute, il y a honneur et honneur, mon jeune drôle. L'honneur d'une demoiselle noble est estimé à la prison, l'honneur d'une grisette vaut 20 sous parisis. Si vous vouliez aller au Châtelet, il fallait vous adresser à une duchesse, et alors ça allait tout seul. Mais c'est affreux, immoral, abominable, s'écria l'écolier. Mon cher ami, dit le juge, payez votre amende et allez-vous-en. Je ne paierai pas mon amende et je ne veux pas m'en aller. Alors je vais appeler 2 hoquetons et vous faire conduire en prison jusqu'à ce que vous ayez payé. C'est ce que je demande. Le juge appela 2 gardes. Conduisez ce drôle-là au Grand Carme. Au Grand Carme, s'écria Jacques, et pourquoi pas au Châtelet? Parce que le Châtelet n'est pas prison pour dette, entendez-vous, mon ami? Un instant, dit Jacques Aubry, un instant. Quoi? Du moment que ce n'est pas au Châtelet que vous me conduisez, je paie. Alors, si vous payez, il n'y a rien à dire. Allez, messieurs les gardes, allez, le jeune homme paie. Les 2 hoquetons sortirent, et Jacques Aubry tira de son escarcelle 20 sous parisis qu'il aligna sur le bureau du juge. Voyez si le compte y est, dit le lieutenant criminel. Le greffier se leva alors, et pour accomplir l'ordre donné, se cambra en demi-courbe, embrassant dans le cercle que décrivait son corps, qui semblait posséder le privilège de s'allonger indéfiniment, sa table et les papiers qui étaient dessus. Ainsi posé, les pieds à terre, les 2 mains sur le bureau du juge, il avait l'air d'un sombre arc-en-ciel. « Le compte y est, dit-il. Alors, retirez-vous, mon jeune drôle, dit le lieutenant criminel, et faites place à d'autres. La justice ne peut pas ne s'occuper que de vous. Allez. » Jacques Aubry vit bien qu'il n'y avait rien à faire et se retira, désespéré. Par exemple, se disait l'écolier en sortant du palais de justice et en suivant machinalement le pont au moulin qui conduisait presque en face du Châtelet, par exemple, je suis curieux de savoir ce que dira Gervaise quand elle saura que son honneur a été estimé 20 sous parisis. Elle dira que j'ai été indiscret, que j'ai fait des révélations et elle m'arrachera les yeux. Mais qu'est-ce que je vois donc là? Ce que voyait l'écolier, c'était un page de ce seigneur si aimable auquel il avait pris l'habitude de confier ses secrets et qu'il regardait comme son plus tendre ami. L'enfant était adossé au parapet de la rivière et s'amusait à jongler avec des cailloux. « Bonjour, monsieur le page !» s'écria Aubry, du plus loin qu'il crut que le jeune homme pouvait l'entendre. « Bonjour, seigneur écolier !» répondit l'enfant. « Que faites-vous dans le quartier ?» Ma foi, s'il faut vous le dire, je cherchais une chose que je crois avoir trouvée, puisque vous voilà. Je cherchais l'adresse de mon excellent ami, le comte, le baron, le vicomte, l'adresse de votre maître. Désirez-vous donc le voir? Demanda le page. À l'instant même, si c'est possible. Eh bien, vous allez être servi à souhait, il est entré chez le prévôt. Au Châtelet? Oui, il va en sortir. Il est bien heureux d'entrer au Châtelet comme il veut, mais il est donc lié avec messire Robert d'Estourville, mon ami, le vicomte, le comte, le baron. Le vicomte, mon ami le vicomte de... Dites-moi donc, continua Aubry, désirant en profiter de la circonstance pour connaître enfin le nom de son ami, le vicomte de Mar... Ah! S'écria l'écolier en voyant celui qui l'attendait paraître à la porte et sans laisser achever le page. Ah! Cher vicomte, vous voilà donc. C'est vous que je cherche, je vous attends. Bonjour, dit Marmagne, évidemment contrarié de la rencontre. Bonjour, mon cher. Je voudrais causer avec vous, mais malheureusement je suis pressé. Ainsi donc, adieu. Un instant, s'écria Jacques Aubry, en se cramponnant au bras de son compagnon. Un instant, vous ne vous en irez pas comme cela, au diable. D'abord, j'ai un immense service à vous demander. Vous? Oui, moi, et la loi du ciel, vous le savez, qu'entre amis, il faut céder. Entre amis? Vous êtes bien en cour, n'est-ce pas? Mes amis le disent. Vous avez quelques crédits, alors? Mes ennemis pourraient s'en apercevoir. Eh bien, mon cher comte, mon cher baron, mon cher vicomte, faites-moi entrer au Châtelet. En quelle qualité? En qualité de prisonnier, tout simplement. Et dans quel but voulez-vous entrer au Châtelet? Demanda Marmagne, qui se doutait que ce désir de l'écolier cachait quelque nouveau secret dont il pourrait tirer parti. Un autre que vous, je ne le dirai pas, mon bon ami, répondit Jacques, car j'ai appris à mes dépens, ou plutôt à ceux du pauvre Ascanio, qu'il faut savoir se taire, mais à vous, c'est autre chose. Vous savez bien que je n'ai point de secret pour vous. En ce cas, dites vite. Eh bien, mon ami, imaginez-vous donc que j'ai eu l'imprudence de confier à d'autres que vous que j'avais vu une charmante jeune fille dans la tête du dieu Mars. Après, les fronts éventés, les cerveaux à l'envers, n'ont-ils pas répandu cette histoire, tant et si bien qu'elle est arrivée aux oreilles du prévôt. Or, comme le prévôt avait depuis quelques jours perdu sa fille, il s'est douté que c'était elle qui avait choisi cette retraite. Il a prévenu le comte d'Orbec et la duchesse d'Étampes. On est venu faire une visite domiciliaire à l'hôtel de Nesle, tandis que Benvenuto Cellini était à Fontainebleau. On a enlevé Colombe et l'on a mis Ascanio en prison. Bah. Et comme je vous le dis, mon cher, et qui a conduit tout cela, un certain vicomte de Marmagne. Mais, interrompit le vicomte, qui voyait avec inquiétude son nom revenir sans cesse sur les lèvres de l'écolier, « mais vous ne me dites pas quel besoin vous avez d'entrer au Châtelet, vous ?»« Mais ce qu'ils ne savent pas, ce que personne ne sait, excepté la duchesse d'Étampes, Benvenuto et moi, c'est qu'Ascanio possède certaines lettres, certains secrets qui peut perdre la duchesse. Or, comprenez-vous maintenant ?» Oui, je commence, mais aidez-moi, mon cher ami. Comprenez-vous, vicomte, continua Aubry, s'aristocratisant de plus en plus, je veux entrer au Châtelet, pénétrer jusqu'à Ascanio, prendre sa lettre ou recevoir son secret, sortir de prison, aller trouver Benvenuto et combiner avec lui quelques moyens de faire triompher la vertu de Colombe et l'amour d'Ascanio, du prévôt, de la duchesse d'Étampes et de toute la clique. C'est très ingénieux, dit Marmagne, merci de votre confiance, mon cher écolier, vous n'aurez pas à vous en repentir. Vous me promettez donc votre protection? Pourquoi faire? Mais pour me faire entrer au Châtelet, comme je vous l'ai demandé. Comptez dessus. Tout de suite, attendez-moi là. Oui, revenez vite, et si sur votre route vous rencontrez ce maudit Marmagne, dites-lui. « Quoi ?» demanda le vicomte. « Dites-lui que j'ai fait un serment. »« Lequel ?»« C'est qu'il ne mourrait que de ma main. »« Adieu !» s'écria le vicomte. « Adieu, attendez-moi là. »« Au revoir, dit Aubry, je vous attends. »« Ah, vous êtes un ami véritable, vous, un homme à qui l'on peut se fier, et je voudrais bien savoir... » « Adieu, seigneur écolier, dit le page qui s'était tenu à l'écart pendant cette conversation et qui se remettait en route pour suivre son maître. « Adieu, gentil page, dit Aubry, mais avant que vous ne me quittiez, un service. »« Lequel ? Quel est ce noble seigneur à qui vous avez l'honneur d'appartenir ?»« Et il s'appelle le vicomte... »« Ah, mais le voilà qui se retourne et qui m'appelle... pardon, le vicomte de... »« Le vicomte de Marmagne !» Marmagne ? S'écria Aubry. Le vicomte de Marmagne ? Ce jeune seigneur, le vicomte de Marmagne ? Lui-même. Marmagne, l'ami du prévôt, de Dorbec et de madame d'Étampes ? En personne. Et l'ennemi de Benvenuto Cellini ? Justement. Ah ! S'écria Aubry, voyant comme à la lueur d'un éclair dans tout le passé. Ah, je comprends maintenant. Ah, Marmagne, Marmagne ! Alors, comme l'écolier était sans armes, par un mouvement rapide comme la pensée, il saisit la courte épée du petit page par la poignée, la tira du fourreau, et s'élança à la poursuite de Marmagne en criant « Arrête !» Au premier cri, Marmagne, inquiet, s'était retourné, et, voyant Aubry courir après lui, l'épée à la main, s'était douté qu'il était enfin découvert. Il n'y avait que deux moyens, ou fuir ou attendre. Or, Marmagne n'était pas non plus tout à fait assez lâche pour fuir. Il choisit donc un moyen intermédiaire et s'élança dans une maison dont la porte était ouverte, espérant refermer la porte. Mais, malheureusement pour lui, elle était retenue au mur par une chaîne qu'il ne put détacher, de sorte qu'au bris, qui le suivait à quelque distance, arriva dans la cour avant qu'il eût le temps de gagner l'escalier.
« À l'assassin !» cria Marmagne, « à l'aide, au secours !»«
Oh, crie tant que tu voudras, » répondit Jacques, « tu auras cessé de crier avant qu'on arrive. Ce que tu as de mieux à faire, vicomte, c'est donc de te défendre aussi, crois-moi, en garde, vicomte, en garde !»«
Eh bien, puisque tu le veux, » s'écria le vicomte, « attends un peu et tu vas voir !»
Marmagne, comme on peut s'en apercevoir, n'était pas naturellement brave, mais ainsi que tous les seigneurs de ce temps chevaleresque, il avait reçu une éducation militaire. Mais si Marmagne était d'une habileté reconnue parmi les seigneurs de la cour, Jacques Aubry était d'une adresse à contester parmi les écoliers de l'université et les clercs de la basoche. Il en résulta donc que, du premier coup, les deux adversaires virent qu'ils avaient affaire à forte partie. Seulement, un grand avantage demeurait à Marmagne. Comme Aubry avait pris l'épée du page, cette épée était de 6 pouces plus courte que celle du vicomte. Ce n'était pas un grand inconvénient pour la défense, mais c'était une grave infériorité pour l'attaque. En effet, déjà plus grand de 6 pouces que l'écolier, armé d'une épée d'un demi-pied plus longue que la sienne, Marmagne n'avait qu'à lui présenter la pointe de fer au visage pour le tenir constamment à distance, tandis que, de son côté, Jacques Aubry avait beau attaquer, faire des feintes et se fendre, Marmagne, sans avoir même besoin de faire un pas de retraite, en ramenant simplement sa jambe droite près de sa jambe gauche, se trouvait hors de portée. Il en résultait que 2 ou 3 fois déjà, malgré la vivacité de la parade, la longue épée du vicomte avait effleuré la poignée de l'écolier, tandis que celui-ci, même en se fendant à fond, n'avait percé que l'air. Aubry comprit qu'il était perdu s'il continuait à jouer ce jeu, et pour ôter à son adversaire toute idée du plan qu'il venait d'adopter, il continua de l'attaquer et de parer par les parades et les feintes ordinaires, gagnant insensiblement du terrain pouce à pouce. Puis, quand il se crut assez près, il se découvrit comme par maladresse. Marmagne, voyant un jour, se fendit. Aubry, prévenu, revint à une parade de prime, puis, profitant de ce que l'épée de son adversaire se trouvait soulevée à 2 pouces au-dessus de sa tête, il se glissa sous le fer en bondissant et en se fendant tout à la fois, et cela si habilement et si vigoureusement que la petite épée du page disparut jusqu'à la garde dans la poitrine du vicomte. Marmagne jeta un de ces cris aigus qui annoncent la gravité d'une blessure, puis, baissant la main, il pâlit, laissa échapper son épée et tomba à la renverse. Juste à ce moment, une patrouille du guet, attirée par les cris de Marmagne, par les signes du page et par la vue du rassemblement qui se formait devant la porte, accourut, et comme Jacques Aubry tenait encore à la main son épée toute sanglante, elle l'arrêta. Aubry voulut d'abord faire quelque résistance, mais comme le chef de la patrouille cria tout haut « Désarmez-moi ce drôle-là et conduisez-le au Châtelet », il remit son épée et suivit les gardes vers la prison tant ambitionnée par lui, admirant les décrets de la Providence qui lui accordait à la fois les 2 choses qu'il désirait le plus, se venger de Marmagne et se rapprocher d'Ascanio. Cette fois, on ne fit aucune difficulté de le recevoir dans la forteresse royale.